Nous sommes invités à vivre les principes du royaume de Dieu. Très important, à vivre ces principes dans nos vies. Nous avons besoin, pour cela, de nous débarrasser de certaines incompatibilités. La première que nous avons identifiée dimanche passé, c'était celle du mérite. Pour nous, ce qui est juste, c'est ce qui est mérité. Nous basons souvent le mérite, tout sur le mérite. Eh bien, dans le royaume de Dieu, tout est basé sur le principe inverse, c'est l'immérité, c'est la grâce. Amen. Alors, on a vu que ces pensées, une fois qu'on a vraiment cette pensée du mérite, ça ne laisse pas place donc, à la grâce, ça ne laisse pas place deuxièmement à la gratitude, puis ça ne laisse pas place non plus à la générosité. On avait regardé tout ça, j'espère que non seulement vous avez pu retenir, mais vous avez pu appliquer déjà ces points dans votre vie la semaine dernière. Et puis dans cette parabole que nous avions pris du travailleur de la dernière heure, la générosité du maître était finalement le problème principal, c'est ça qu'on avait vu. Les premiers travailleurs avaient un problème avec la générosité, la bonté du maître, parce que eux travaillaient avec le salaire au mérite. C'est vraiment ce problème-là. Et nous avons vécu quelque chose, nous avons dit, mais pouvons-nous être reconnaissants? Pouvons-nous nous réjouir pour la grâce? Pouvons-nous nous réjouir pour la générosité de Dieu, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable de se réjouir, ou bien on dit toujours, mais moi je mérite plus que l'autre. Moi j'ai besoin de ça, lui là, moi. Non, est-ce qu'on peut se réjouir pour la bonté de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs? Et j'aimerais vous dire ce matin, encore une fois, qu'il n'y a pas besoin de mériter. Et d'ailleurs, si je me tiens devant vous, ce n'est pas parce que je mérite, je le répète. Il y en a toujours qui pensent que le pasteur est plus parfait que tous les autres. On tend vers la perfection, vous tendez tous vers la perfection, mais on a nos luttes, on a nos combats, on n'est pas parfait. Des fois, je me dis, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Je ne mérite pas, je ne mérite tellement pas. Donc c'est par sa grâce que je suis là ce matin devant vous. Il nous fait grâce, mais on doit la saisir. D'accord? Il faut saisir cette grâce. Moi j'aurais pu refuser, j'aurais pu me culpabiliser, j'aurais pu rester dans mon trou, à dire non, mais non, je ne mérite pas, non, t'es tellement saint, puis moi je suis tellement pas saint. Non, j'ai choisi de saisir sa grâce. Et quand je pense à son pardon, quand je pense que pour me pardonner moi, il a choisi de donner la vie de son fils. Si vous réalisez ça, est-ce qu'on peut se permettre de rester par terre? Franchement. Si vous commencez à saisir qu'est-ce que ça veut dire ça, on ne peut pas dire non à sa grâce. Jésus est mort pour nos péchés. On doit saisir cette grâce ce matin. Mais imaginez si soudainement Dieu changeait d'avis et voulait nous faire payer la facture de nos erreurs. Imaginez ça. Ha, la liste serait grande, hein, puis le montant certainement impossible à rembourser. Parole blessante, allez, vous dites combien? 150 francs? 150 francs, bon, fois toutes les paroles blessantes qu'on a dit une fois ou l'autre, ça en fait déjà un paquet. Manque de patience, allez, moi j'ai mis ça à 300 francs. Bon, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont peut-être un peu plus de patience, quelquefois. Tricherie. Vous voyez les petites tricheries, les petites magouilles, là. Personne ne le sait, ils ne verront pas dans la feuille d'impôt. Si je... non. 500 francs, allez. Idolâtrie, alors là je monte, là, idolâtrie. On a tellement dit de l'idolâtrie partout. Allez, 10 000. Pensée impure. 800. Bon, ceux qui se disent qu'ils n'en ont pas, ils vont dire 10 000, et puis les autres, ils vont dire 80, mais bon, on en a tous. Regard impur, aussi, 800, allez. Sexualité hors mariage, 10 000. Jalousie, combien? Jalousie, 300, ça va? Comparaison, alors là, comparaison, j'ai mis 300 aussi, mais on se compare souvent, hein. Ça fait un gros montant. Orgueil, ouh là, j'ai monté, ouh là là. Hein, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Allez, 15 000. Manipulation, j'ai mis 5 000. On est bon pour manipuler, hein. Mensonge. Tout le monde a menti une fois ou l'autre. Allez, 2 000. Bon. Vous avez compris le principe, hein, on pourrait continuer, la liste pourrait être longue. Mais si on doit payer chaque fois nos erreurs, puis si en plus on doit payer rétroactivement, on aime bien quand les assurances nous remboursent rétroactivement, ça on aime bien. Mais si on devait payer nos erreurs rétroactivement, ça coûterait cher, on n'y arriverait pas. Vous savez ce qu'on faisait avec les gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes à l'époque? Il y avait trois possibilités. Soit ils devaient travailler jusqu'à ce que leurs dettes soient remboursées. Puis on faisait travailler toute leur famille, hein, parce que c'était un problème familial finalement. Soit on les mettait en prison, on mettait la personne en prison, puis c'est la famille qui devait essayer de travailler pour combler les dettes, parce qu'ils étaient à la fois en prison, puis à la fois il fallait payer les dettes. Et puis, troisième possibilité, ben on vendait la famille. On vendait la famille comme des esclaves, puis en espérant que ça couvre les frais. Voilà ce qu'on faisait avec les gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. On est un peu embêtés, hein, parce que nous, cette dette-là, on ne peut pas la payer. J'essaie simplement de faire prendre conscience que le pardon de Dieu en Jésus-Christ n'a pas de prix. Vous le savez. Mais des fois, c'est bon juste de se rappeler ça. Notre dette, elle est énorme. Et la base du royaume de Dieu, c'est que tu n'as plus à payer cette dette-là. Ça, c'est la base. Tu es libéré en Jésus-Christ de ta dette. Alléluia. On est libéré de cette dette. Bien sûr, pour ça, il faut l'avoir choisi, cette grâce. Dis oui à cette grâce. Dis oui à Jésus-Christ. Dis oui, j'ai besoin d'être sauvé. On va lire maintenant un texte dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27 pour commencer, où il est dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable, on parle du royaume des cieux ce matin, il est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Comme je viens de vous le dire, c'était une des solutions. Mais le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout, promis, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen, on va continuer la lecture tout à l'heure. Le royaume de Dieu, c'est l'histoire d'un roi. Le royaume de Dieu, c'est l'histoire d'un roi qui est ému de compassion, qui remet la dette de ses serviteurs. Ça, c'est l'histoire du royaume de Dieu. Ça, c'est notre histoire. Une dette énorme. Il est question là de 10 000 talents. Peut-être certaines versions vont parler en pièces d'argent, 60 millions de pièces d'argent. Vous vous souvenez peut-être la dernière fois, la parabole qu'on avait vue, les serviteurs recevaient combien pour une journée de travail? Ils recevaient une pièce d'argent. Donc c'est impossible à rembourser, c'est énorme. Mais malgré cette réalité, la suite de l'histoire nous dit ceci, je continue la lecture au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 35, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Pas beaucoup d'amen, hein? Amen. Alors le serviteur, il n'a pas hésité un seul instant à supplier le roi pour que ce roi lui fasse miséricorde, pour lui-même, mais lorsqu'il était en position de force, alors que ce n'est plus lui qui était là, mais c'est lui qui pouvait serrer la gorge de l'autre, Là, il n'a pas hésité une seconde à envoyer ce gars en prison pour 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent, donc 3 mois et demi de salaire. Lui, il devait 166 ans de salaire. On lui remet tout, pour 3 mois et demi de salaire, il envoie le gars aux prisons. Jésus conclut donc avec ce verset que je relis, c'est ainsi que le Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, l'incompatibilité que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'incompatibilité de la mesure. Ce serviteur, en fait, il n'a pas utilisé la même mesure, la même échelle de compassion et de miséricorde que le roi a utilisé à son égard pour mesurer à son tour son débiteur. Et c'est ce que le roi va lui reprocher. Il lui dit, mais tu n'as pas eu pitié de ton compagnon, de la même manière que moi j'ai eu pitié de toi. Donc moi j'ai utilisé une mesure de grâce et de miséricorde pour ta vie, et toi, pas du tout, pas la même. Tu l'as fini, tu l'as mis en prison. Alors dans ce texte, il est question de compassion, de miséricorde, mais il semble aussi clair que cette parabole traite du pardon. Donc il y a une mesure dans le pardon que nous allons voir ensemble. Jésus raconte cette parabole suite à l'intervention de Pierre, qui, de nouveau Pierre, hein, comme la semaine dernière, Pierre, qui, pensant être très généreux, puis espérant être félicité de son maître, demande à Jésus s'il est bien de pardonner jusqu'à 7 fois son frère. Vous savez, dans l'enseignement rabbinique, on disait qu'il fallait pardonner 3 fois. Puis là, Pierre, il pousse un peu la barre. Puis il dit, hé, c'est bien si on pardonne 7 fois. Hein? Et puis, Jésus va encore une fois le surprendre avec cette réponse en lui disant, tu pardonneras 77 fois 7 fois, 77 fois 7. Enfin, pour cela, pour dire que le pardon doit être illimité. Le pardon ne peut pas être quantifié. Puis ça, c'était l'erreur de Pierre. Puis nous, c'est souvent notre erreur. Je te pardonne, mais pas 2 fois. On est comme ça, non? Ça va pour 7 fois, mais la prochaine, de nouveau. Paradoxe. Mais Jésus poursuit alors avec cette parabole qui nous décentre du tort qui nous a été fait ou du montant qui nous est dû, pour nous rappeler premièrement la dette qui nous a été enlevée, pardonnée par compassion et par amour. C'est intéressant. Il parle du pardon, il dit tu pardonneras 77 fois 7, et puis il commence cette parabole en disant un roi qui a un serviteur qui lui remet la dette. Ça c'est nous. On se descend de qu'est-ce qu'on nous doit pour réaliser que nous, premièrement, on a une dette qui a été effacée. Notre mesure dépend de notre regard sur la situation. Vous savez, lorsqu'on change notre manière de voir les choses que l'on voit commencent à changer souvent. On croit toujours que les changements, ça vient de l'extérieur, mais le changement, il vient de nous, il vient de l'intérieur. Et quand on commence à changer notre façon de voir, par l'Esprit, on a besoin du Saint-Esprit pour cela, alors la situation change aussi. Et la première manière de voir la situation en lien avec le pardon, c'est le regard du « n'oublie pas d'où tu viens ». N'oublie pas d'où tu viens. Dans toutes les situations de nos vies, c'est essentiel de se rappeler ça. N'oublie pas le chemin parcouru. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où je t'ai tiré. N'oublie pas comment aujourd'hui tu en es là. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est par ma grâce. N'oublie pas. Petite illustration, tous les conducteurs de cette salle se sont retrouvés un jour ou l'autre, certainement devant la voiture d'un élève conducteur, d'un L. Oui, c'est vrai, hein? Généralement, tu vois le carré bleu de loin, et puis si vous êtes tous comme moi, non! Non, un L, voilà, c'est juste ce qui me manquait. Encore un gars qui ne sait pas conduire, je vais perdre du temps. Puis bien sûr, je ne vais pas pouvoir le dépasser. Et puis on arrive. On lui colle un peu aux fesses pour lui montrer que nous, on sait conduire. Non, vous n'êtes pas comme ça. Hein. Bon, c'est sûr que si vous regardez à droite, la plupart des hommes, vous me direz si c'est vrai, il y a d'un coup quelqu'un là à droite qui a une parole de sagesse. 99% des cas, c'est vrai. Une parole de sagesse de votre femme, c'est peut-être Non, c'est pas vrai, c'est pas le seul moment, c'est le moment en tout cas. Et puis, elle te dit, mais chérie, ça ne sert à rien de t'énerver. On a dû tous apprendre un jour. Hein, on a tous dû apprendre un jour, on a tous passé par là. Tu es là, je suis pressé, faut que je sois au culte à l'heure. Non, je suis pas comme ça. Tu préférais peut-être qu'elle s'énerve avec toi, puis elle te soutienne, puis elle dit, ah ouais, c'est vrai. Hein, mais non, on a tous passé par là, mon chéri, bien calmement. Calme-toi, ça va aller. Elle a raison. Mais si elle a raison, on a tous passé par là. On ne doit pas oublier le chemin parcouru. C'est vrai pour la conduite, c'est vrai pour la vie spirituelle. On ne doit pas oublier notre chemin. En parlant du jugement, il est dit en Matthieu 7, verset 2, « On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. » Verset clé, important. On est souvent plus compréhensif avec soi-même que vis-à-vis des autres. Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dans la prière du Notre Père, il est dit en Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors je vous pose la question ce matin, quel regard portes-tu sur les autres? Es-tu aussi sévère envers toi que tu l'es envers eux? Dans le royaume de Dieu, premièrement, on pardonne, ça c'est sûr, on pardonne. Et deuxièmement, on applique aux autres la mesure de grâce et de pardon avec laquelle nous avons été mesurés. Ça, c'est la valeur du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas changer cette mesure. On ne doit pas oublier que nous aussi, on a passé par là. Nous aussi, on a besoin de sa grâce. Nous aussi, on faisait ça. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit nous a montré que ce n'était pas juste. Il nous a transformés. Peut-être que l'autre, il n'est pas encore là. Nous aussi, on réagissait comme ça. Mais le Saint-Esprit nous a éclairés, nous a transformés. Nous aussi. Avant d'exiger que celui qui te doit quelque chose te paie, n'oublie pas de considérer ta propre vie. Alors, il ne s'agit pas d'excuser tout. Attention. Parce que des fois, excuser, ça veut dire un petit peu qu'on est complice ou que ça nous arrange. Parce qu'on ne veut pas voir. On fait un peu l'autruche, puis on ne veut pas voir le problème, et puis on excuse tout. Parce que oui, mais nous aussi on a péché, nous aussi on était pécheurs. Hein, donc c'est pas si grave. Non, il y a des choses qui sont terribles. Il y a des actes qui ont des conséquences terribles, qu'on ne peut pas excuser. Mais de nouveau, on parle du pécheur, on parle de la personne. Elle a besoin de grâce, elle a besoin d'être pardonnée. On ne peut pas le faire non plus le chemin à sa place, on ne peut pas accepter la grâce à sa place. Mais notre regard peut changer. Le pardon est disponible pour chacun, aussi pour le pire des criminels, hein, n'oublions pas ça. Ce même pardon qui m'a libéré peut le libérer. Il a besoin de la grâce et du pardon, tout comme moi. Alors n'oublions pas d'où nous venons. Deuxièmement, le second regard, c'est celui de la compassion. Le roi, vous avez vu, il a remis la dette, pourquoi? Il a été ému de compassion. Ce terme grec, il revient souvent dans les évangiles, splagizomai, qui signifie être remué dans ses entrailles. Cette compassion, elle vient de là, elle vient des entrailles. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui nous remue. On est rebouillé, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est peut-être vaudois, on est rebouillé. Voilà, ça nous... quelque chose qui se passe, puis tu es saisi. Vous avez peut-être déjà été saisi devant une situation, devant un film qui vous prend comme ça, d'un coup vous sentez dans votre ventre quelque chose qui se serre. Eh bien, ce roi, face à cette situation, face à ce serviteur qui l'implore, qui dit « Aie pitié, mais je vais te payer, mais sois patient. » Ben, il n'est pas intransigeant, non. Il se laisse saisir. Ses entrailles qui se remuent. Puis il voit cet homme. Puis on peut imaginer même des larmes qui montent. Puis il dit « Ok, tu me dois beaucoup, mais je te remets ta dette. » Encore une fois, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Et Jésus, on le voit, ce même terme, Matthieu 9, 36, en voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le même terme, il voit la foule, ça le serre, il pleure. Matthieu 14, verset 4, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alors que lui-même venait d'avoir une situation difficile, il devait faire un deuil, il arrive devant la foule, saisi dans les entrailles, remué, ému de compassion. Matthieu 20, 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ému de compassion, les amis. Un regard de compassion. Est-ce que quand on prie, est-ce que quand on voit l'un ou l'autre de nos frères en difficulté, est-ce qu'on est ému de compassion encore? Est-ce qu'on se laisse un petit peu saisir au fond de nous-mêmes? Bien, de nouveau, il s'est mis tout seul dans la M, les amis. Il s'est mis tout seul dans la M. C'est pas notre faute quand même s'il a fait des mauvais choix. Bien, est-ce qu'on est saisi de compassion? Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour lui. C'est comme ça que Jésus agissait. Parce qu'il était ému de compassion. Et la compassion, c'est dans le royaume de Dieu. La compassion, c'est le cœur du Père. C'est tellement essentiel. Alors notre pardon doit être donné avec cette conscience de ce qui nous a été pardonné à nous, mais avec cette compassion qui animait Jésus. Ça caractérise le royaume de Dieu. La compassion regarde au-delà de la situation présente. La situation présente, ça peut être « tu me dois quelque chose, tu ne me payes pas », ou bien simplement « je ne lui pardonnerai pas ». Mais nous arrivons à pardonner alors que la compassion commence à venir en nous. Nous, souvent, on a cette mesure, il y a des choses qui sont impardonnables. Est-ce que c'est vraiment juste? La compassion donne cet autre éclairage sur la personne et sur la situation qui permet au pardon d'être libéré. Mais c'est vrai que humainement, ce n'est pas possible. On a besoin de Jésus, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de ce pardon qui est divin. On va le voir aussi. Mais si on reste avec un cœur fermé, si on ne laisse pas la place à la compassion, on va juste rester sur ce qui est, sur la situation que la personne nous doit. On attend un pardon, il ne nous le donne pas, elle nous doit de l'argent, et puis de nouveau, on est dans cette attitude-là où on se ferme, et puis on est aigri, et de nouveau l'amertume qui arrive, parce qu'on n'arrive pas à voir autre chose. Peut-être qu'on vous doit de l'argent aujourd'hui, peut-être qu'on vous doit des excuses. Est-ce que vous pouvez laisser la compassion entrer dans votre cœur? Vous savez, le non-pardon, ça nous tient captifs. On n'arrive tellement plus à penser à autre chose. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont tellement obnubilés par ça, qui parlent que de ça. Ils te rencontrent, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, ils te parlent de la situation, le problème, et puis... quand même, il devrait quand même me demander pardon, non? Il devrait quand même... oui, ce serait bien qu'il te demande pardon, effectivement. Mais est-ce que nous, on ne peut pas faire un petit bout? Ou bien des réflexions. Ah oui, tant que je suis blessé, je ne reviens plus à l'église. J'attends qu'il me demande pardon, parce que vraiment, je ne reviens plus. Ok. Mais qui c'est qui se prive au final? Qui c'est qui n'est pas avec le corps de Christ? Qui c'est qui n'est pas là le dimanche matin? La personne, des fois, elle ne sait même pas qu'elle a blessé l'autre. Alors, ce n'est pas elle qui va venir, premièrement, demander pardon. Donc, petit à petit, c'est vous qui êtes prisonniers et c'est vous qui vous privez. Je le répète, le changement commence en nous. Et lorsqu'on change notre manière de voir, les choses que l'on voit commencent à changer. Alors, comme je l'ai dit, le pardon, c'est un cadeau divin que l'on peut choisir de saisir. C'est un cadeau, le pardon. Le théologien Paul Tillich, c'est un Allemand, il dit « Le pardon est le remède de Dieu » à notre existence. Et puis Oswald Chambers, que vous connaissez certainement, il dit « Le pardon ne procède pas de la nature humaine, il procède totalement de la nature divine, et il est un miracle quand on le voit manifesté dans la vie d'un être humain. » Amen. Lorsque ce remède fait partie de notre vie, lorsque tu saisis ce miracle divin, alors tu commences à être enclin à pardonner, même les pires ennemis, parce que ce pardon vient de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de miraculeux. On sait tous, au fond de nous, que le pardon, c'est la solution. Vous le savez. Vous avez une situation d'amertume. Vous savez que vous devez pardonner. C'est un processus. C'est vrai. Ça peut être long. Mais vous le savez. Et la question, des fois, que j'ai envie de poser à des gens qui sont dans le non-pardon, est-ce que tu as envie de pardonner? Est-ce que tu as même envie de pardonner? Parce que des fois, on s'accommode à la situation et puis on s'arrête là. On est dans ce... on s'habitue ou même on aime bien qu'il y ait un peu ce conflit, puis on l'entretient. Puis on ne va pas vers l'autre pour finalement dire, ok, ça fait 10 ans qu'on change de trottoir, ce serait peut-être temps, un moment. Ça, c'est la maturité. Si tu choisis ce matin de pardonner, tu vas commencer à voir la situation avec ce regard de compassion. Tu vas te mettre à la place de celui qui t'a fait du tort ou qui te doit quelque chose, et à la place de la haine, de la rancune ou d'un désir de vengeance, tu verras sa tristesse. Tu verras peut-être sa misère. Tu verras son aveuglement, son entêtement. Puis tu vas voir que l'autre qui te doit ce pardon, il a besoin de miséricorde. C'est vrai. C'est pas juste nous qui avons besoin de ce pardon. Oui, on en a besoin, on aimerait bien qu'il nous dise pardon. Mais est-ce qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre? Pourquoi cette situation? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Quelque part, c'est qui le plus malheureux? C'est qui a besoin de miséricorde? Moi, je peux la saisir maintenant pour ma vie. Mais lui, est-ce que quelqu'un lui tend la perche? Est-ce qu'il est conscient qu'il y a une grâce disponible pour sa vie? Est-ce qu'il sait qu'il peut être pardonné? Alors peut-être qu'on comprend ainsi pourquoi l'autre nous a fait mal, puis on va commencer à prier. On va peut-être pouvoir commencer à prier pour cette personne. Ok, je lui pardonne. Il ne m'a encore rien demandé. Il n'est pas venu me présenter des excuses. Déjà, je lui pardonne. Parce que le pardon, c'est un don. Parce que moi-même, j'ai été pardonné. Parce que maintenant, j'ai des entrailles de miséricorde. J'ai de la compassion pour cette personne. Puis là, je commence à prier pour elle. Seigneur, viens la chercher. Seigneur, montre-lui. Ouvre les yeux. Seigneur, que ta grâce soit déversée sur elle. En mai 2013, tout le canton de Vaud a été touché par l'assassinat d'une jeune femme, Marie, tuée par un meurtrier en liberté conditionnelle, un petit peu dans cette même situation que Adeline, c'était très difficile. Et son père, un pasteur, M. Schulter, il a écrit un témoignage bouleversant qui a été publié dans Le Temps. Et je vais juste vous en lire quelques extraits, parce que je crois qu'il y a quelque chose de bon pour nous ce matin. Il dit ceci, « Le mal radical auquel bien trop d'êtres humains sont confrontés, a frappé à notre porte en pleine nuit, quand deux inspecteurs de police sont venus nous annoncer l'enlèvement de notre fille par un meurtrier récidiviste. Deux jours plus tard, nous nous retrouvions devant la dépouille de Marie, 19 ans, à l'Institut de médecine légale. Comment y survivre? Vivre avec? Comment vivre après? Avec mon épouse et notre autre fille, nous avons d'emblée choisi de refuser de nous laisser salir le cœur par la haine. Nous avons tout remis à Dieu et tenté de nous concentrer sur des valeurs constructives. Plusieurs passages de la Bible, dont un que je devais travailler pour la fin de l'été, ont été une grande source d'inspiration. Face à l'horreur du mal radical, nous avons puisé dans les paroles lumineuses du Christ, culminant dans la non-réponse au mal par le mal et l'amour même de l'ennemi. Il dit ensuite, « Dans notre société, le défi me semble être de s'inspirer des valeurs fortes du Sermon sur la montagne pour un vivre ensemble centré sur l'accueil, la générosité et un profond respect d'autrui tel qu'il se présente à nous. Sans jamais renoncer à l'amour de l'autre différent ou menaçant. Et ce, jusque dans l'exercice de la plus grande fermeté quand cela s'avère nécessaire, motivé par la justice et non la vengeance. » Il termine en disant, « Alors, comment survivons-nous? En avançant sur un chemin de crête, guidé et accompagné, le brouillard est parfois tenace, mais nous savons que quelqu'un nous précède et qu'il a déjà accueilli Marie, 19 ans et un jour, et l'éternité devant elle. Survivre, c'est vivre avec ce quelque chose en plus qui change tout, l'espérance. Et recevoir d'en haut et des autres la force d'aimer. Je l'ai dit au jour du deuil et je le répète, le mal est fait, le mal est défait. » Cette famille dans cette situation tragique a fait le choix de combattre le mal par le bien, de ne pas se laisser salir par la haine. Waouh, quel exemple, quel exemple. C'est vrai, c'est un exemple peut-être extrême, un exemple tragique. Mais si c'est possible dans ces situations-là, alors à combien plus forte raison c'est possible dans des situations différentes de nos vies, peut-être plus moindres qu'un tel drame. Si cet homme a réussi à faire ce chemin avec Christ, est-ce que nous aussi nous pouvons faire un chemin dans ce sens? Ça demande un regard différent. Il a dû avoir un regard différent sur le meurtrier. Quelle est la vie de cet homme pour en arriver là? Par quoi est-il habité? Il n'a pas mérité la grâce, mais pourtant, il en a bien besoin, non? Elle est disponible pour lui. Sur la croix, Jésus dit au Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parfois, c'est ça. Il faut pouvoir dire, « Je pardonne. » Il ne sait pas ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas le mal. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'en ai compassion, je leur pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce regard de compassion fait tellement partie du cœur du Père qui désire que ce soit premier dans notre relation entre nous, entre frères et sœurs. C'est tellement présent. Ça coule du Père. La grâce doit couler aussi entre nous. Dans notre texte, l'homme qui a une dette de 100 pièces demande du temps, supplie l'autre. L'autre ne veut rien savoir. Pas de compassion. Et puis qu'est-ce que fait le maître? Il revient, et quelque part il rouvre la dette. Puis il le fait payer à la même mesure qu'il a mesuré l'autre, avec dureté et sans grâce. Ça, c'est pas le cœur du Père pour nous. C'est pas ça qu'il veut. Il veut nous faire grâce. Il veut nous remettre cette dette. Mais attention à la mesure avec laquelle nous mesurons. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. J'aimerais ce matin qu'on puisse saisir, réaliser cette incompatibilité que nous avons à toujours utiliser une mesure plus dure, une mesure plus ferme, une mesure sans compassion, alors que Jésus, que Dieu nous a effacé une dette tellement immense, incalculable. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier et que cette compassion puisse habiter dans nos cœurs. Que nous puissions arriver à poser un regard différent. Peut-être ce matin, tu as un problème avec quelqu'un, puis tu n'arrives pas à pardonner. Et que le Seigneur puisse te montrer ô combien lui t'a pardonné et qu'il puisse te faire grâce, te donner cette compassion ce matin, un regard différent, pour que ce pardon divin soit dans ton cœur. Ce matin, que ceux qui désirent saisir cette mesure différente, dire c'est vrai, je ne réalise pas toujours, mais mon regard sur les autres, ce que j'attends des autres, l'exigence que j'ai envers les autres, je réalise qu'elle n'est pas juste, ce n'est pas la bonne mesure, ce n'est pas ce que moi j'ai eu, c'est pas ce que je ne juge pas les gens, je ne suis pas près des gens avec l'amour et la compassion que moi j'ai reçue de Jésus. Que ceux qui veulent vraiment saisir cette mesure, faire tomber cette incompatibilité dans leur vie, puissent ce matin simplement lever leurs mains comme une décision, dire je veux saisir ta mesure. Je ne fais pas ça pour voir vos mains. Simplement, je le fais parce qu'on a besoin de prendre des décisions. On a besoin de se positionner. La parole de Dieu nous demande de nous positionner, nous demande de changer, nous transforme, nous demande qu'on applique cette parole dans nos vies. Alors ce matin, prenez cette décision, dire « Ok Seigneur, je saisis ta mesure, je saisis ton regard aussi de compassion dans les situations qui me sont difficiles. » Alléluia.